DFM。Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdou Sal et voici l'épisode numéro 53. Cet épisode, oh mon Dieu, va être totalement chargé de sujets parce qu'on revient sur ce Grand Prix d'Italie mémorable mettant en vedette Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lance Stroll, un drapeau rouge, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, ainsi que Renault, ou devrais-je dire Alpine, dès 2021. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Avant de commencer, de revenir en fait sur ce Grand Prix d'Italie fou à Monza, voici un éditorial dont j'avais besoin de le faire parce que dimanche, une page d'histoire s'est tournée. 739 Grands Prix, 114 victoires, dont la dernière remonte à 2012 grâce à Lord Pastor Maldonado. 128 pole positions grâce à une pole surprise de Felipe Massa en Autriche 2014. Et 16 championnats du monde, des pilotes et des constructeurs, dont le dernier remonte à 1997. Merci qui? Merci Jacques. Jacques Villeneuve, bien sûr. Évidemment, ces statistiques, je parle de l'écurie Williams. En fait, devrais-je dire de la famille Williams, puisque dimanche, c'était la dernière course de Claire Williams en tant que directrice adjointe, mais qui gérait en fait l'écurie en tant que telle, puisque son père, Sir Frank Williams, détenait le titre de directeur général honorifique. Oui, les dernières années de Williams sous l'entreprise familiale telle qu'on l'a connue, n'était pas très réjouissante. Juste encore à voir, Williams n'a toujours pas marqué de points cette saison et compte 2 11e places comme meilleur résultat. Et même un point obtenu par Robert Kubica grâce aux pénalités de Alfa Romeo lors du Grand Prix d'Allemagne 2019. Mais malgré tout cela, Il ne faut pas oublier que Williams a apporté énormément à la Formule 1. Du premier titre de Alan Jones en 1980 jusqu'au podium étonnant de Lance Stroll en 2017 lors de l'avant-dernière course interrompue sous un drapeau rouge, cette équipe n'a jamais lâché. Comme n'importe quelle équipe sportive, Il y a souvent des passages à vide. Et le rachat de Williams par Dowlton Capital... il y a eu un petit problème technique. le rachat de Williams par Dowlton Capital il y a quelques semaines a fait en sorte qu'il y aura des changements. Oui, c'était une journée triste quand on a vu Claire Williams verser des larmes. C'est la deuxième fois que je l'ai fait parce qu'il y a dans le documentaire sur Netflix, non pas Drive to Survive, mais le documentaire Williams, on la voit pleurer, je ne dirais pas quelle scène. Claire Williams était très émotive parce que c'est une entreprise familiale qui doit laisser son bijou, son bébé, en fait, pour qu'elle puisse continuer à survivre, mais à surtout revenir là où elle était, remonter sur leur perche, pour citer Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United. Donc, Oui, c'était une journée triste de voir Williams tourner la page, mais c'est une ère qui se termine. C'est une ère qui se termine, mais c'en est une autre qui débute. Alors, Sir Frank Williams, Claire et surtout Lady Virginia Williams, décédée en 2013 des suites d'un cancer, mais qui a été une dame qui a tenu à bout de bras aussi Williams lorsque Sir Frank Williams a eu son accident à Paul Ricard en 86. Un accident qui a changé la vie, non seulement de l'homme, mais aussi de l'écurie. Mais Lady Virginia Williams, elle a aussi aidé l'écurie à continuer la domination, surtout en 86. Alors, à la famille Williams, la Formule 1 vous remercie pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce que vous avez fait, devrais-je dire. Et surtout, on espère que, avec les nouveaux directeurs, l'avenir sera beaucoup plus rose. Donc voilà, c'était l'hommage à Williams. Voilà, c'est malheureusement une page d'histoire qui se tourne, qui est désormais un chapitre qui est écrit. Qu'adviendra-t-il de la suite? On verra de cela. Donc, là, on va passer aux choses sérieuses. On va revenir, on va parler du Grand Prix d'Italie. Et pour cela, on va parler. J'accueille, cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier, je vais présenter, avant de commencer, mes deux collègues, Marc-André Fortin et Anna Maria. Allô, vous deux.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu,
Bon,
Anna
bonsoir.
Maria? Oui, les deux,
Ça
ça
va
c'est bien.
bien.
Oui, ça va très bien, merci. Et toi, Marc-André, comment vas-tu? Je pense qu'on a eu un petit problème avec Marc-André. Je pense qu'il est présentement pas disponible. Il va revenir. Ah, il est
Je
de
suis revenu.
retour. Ah, comment
Je suis
vas-tu?
en grande forme, Abdou.
Oui. Est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions de ce Grand Prix d'Italie?
Je suis encore un peu secoué, je pense.
Ouais, ben je pense qu'on l'est
Ouais.
tous. Et toi, Anna Maria, tu t'es remise de tes émotions?
Disons que j'ai passé des petites siestes à toutes les panoplies d'émotions.
Ah oui, non, je vous comprends.
Merci, Charles Leclerc.
Ouais, s'il n'y avait pas eu ce moment, peut-être qu'on aurait eu peut-être un autre Grand Prix semblable à celui de Belgique. Mais avant de vous emporter, on a eu une nouvelle au cours. On enregistre un mercredi soir, heure du Québec. On a eu une nouvelle assez surprenante, si on pourrait dire. Sergio Pérez a décidé de quitter Racing Point à la fin de la présente saison. Le Mexicain a dit qu'il allait se... Il n'a pas encore de plan B pour 2021, mais il va tout faire pour revenir en Formule... pour rester en Formule 1 avec une écurie qui va être... Bon, avec une écurie tout court, là, on suppose que ce sera peut-être pas une écurie de haut de tableau. Mais je voudrais avoir votre réaction sur cette nouvelle surprenne, sur cette nouvelle en fait. Anna Maria, tu veux commencer?
Oui, mais comment en disant, on nous a pris aujourd'hui pour surprise, Checo. Oui, Pino, parce que ça fait quelques semaines quand même que ça revient les rumeurs de que peut-être il va partir parce que ils ont pris comme notre chemin dans Racing Point aussi que l'année prochaine ça serait à Aston Martin. Mais on était quand même surpris aujourd'hui parce que, je ne sais pas, la semaine passée, ça cliquait un petit peu que tout revenait à la normale. Finalement, Checo, ça là qui restait, mais aujourd'hui, c'est la grosse nouvelle. Finalement, il reste pas, mais C'est ça, c'est un peu dommage quand même que Checo ne sera pas là l'année prochaine parce que c'est un peu difficile, il n'y a pas trop de places non plus disponibles. Mais c'est ça, il n'y a rien de sûr dans la Formule 1. Tout change chaque fois et c'est vrai qu'on s'attendait que s'il y avait des changements dans Racing Point, ça ne serait pas Stroll. C'est sûr que Stroll, il va rester dans l'équipe. C'est pour ça que son père il travaille, ça fait longtemps, c'est pas depuis hier. Mais aussi, la question, Checo, il y avait, tu sais, les comptes. Ils signent des contrats, mais ils sont jamais fermés. Il y avait des sorties, il y avait aussi, tu sais, Checo, il est respaldé depuis toujours pour le millénaire Carlos Slim, mexicain, que c'était le mec, il s'est beaucoup entreprise en Mexique, en Latinoamérique, mais lui est là aussi avec son gros sponsor depuis longtemps. Et ça fait aussi une grosse différence. C'est pour ça qu'il reste toujours à Forza India, après Racing Point, mais que ça contribue aussi parce que l'année passée, le gouvernement mexicain, il a comme tout coupé les sponsors qu'il y avait, même pour les Grand Prix qui était repris pour l'entreprise privée. C'est sûr que c'est le gouvernement qui garantit les contrats, mais c'est le privé qui a réussi à signer un nouvel contrat avec Liberty. Fait que ça fait comme beaucoup de choses ensemble qui fait que aujourd'hui, Checo, il fait son annonce, c'est pas clair si. Il dit qu'il n'y a pas plan B. On dit peut-être AS ou Alfa Romeo. C'est sûr que si lui continue avec son sponsor, il y a plus de chances aussi que quelqu'un s'intéresse. C'est tout ça, c'est la Formule 1, c'est toujours comme ça. Ou tu es champion et tu te fais contrater, ou tu amènes quelque chose. Il y a des équipes qui survivent. Regarde, tu parlais de William qui à peine a réussi à survivre. Mais c'est ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a demain? Sûrement, il va y avoir d'autres nouvelles.
Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de du départ de Checo de Racing Point?
Comme Anna Maël l'a dit, c'est surprenant, mais en même temps, il y a un côté de nous qui se dit que c'est ce qui devait arriver en raison des nombreuses rumeurs que justement Sébastien Vettel arriverait peut-être chez Racing Point l'an prochain, Aston Martin au moment de la signature possible. Mais tout ça pour dire que ce que ça nous dit, c'est que les contrats en Formule 1 ne sont pas garantis. On le répète à chaque fois, mais c'est la réalité que les pilotes doivent avoir avec des contrats qui, oui, sont signés, mais peuvent être déchirés à tout moment. Et c'est ce que Sergio Pérez connaît en ce moment. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être une décision personnelle de voir.
Ouais, exactement. Donc, c'est probablement une décision personnelle.
Racing
Alors.
Point, exact. C'est pointé pour dire que, oh non, Perez va rester l'an prochain. Il essaie toujours présager qu'il négociait un peu avec Vettel, même si on ne savait pas si c'était le cas. Alors, je pense que pour lui-même, on connaît un peu le caractère des Mexicains qui sont très royaux avec leur personne, qui sont fermes. Alors, je pense que ça peut avoir un lien avec tout ça. Et forcé d'admettre qu'il reste quand même deux places possibles dans le championnat. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais chez Haas, rien ne fonctionne avec les deux pilotes actuels. Et ce serait peut-être le moment d'accueillir un nouveau pilote, de faire un petit vent de changement dans cette écurie pour amener un gars d'expérience qui a encore beaucoup de bonnes choses à donner et de faire un petit peu un ménage de printemps dans cette écurie qui ne va nulle part.
Ouais, exactement. Alors, qu'adviendra-t-il de Checo en 2021? C'est à suivre, mais encore, maintenant la question se pose. Qui le remplacera chez Racing Point? Est-ce que ou Aston Martin? Est-ce que c'est un Allemand ou ce sera une autre nationalité aussi? C'est à suivre. Donc voilà, on voulait
Oh, ça
revenir.
sera un ado. Oh, aujourd'hui on parlait de ça. Oh, ça sera un Allemand ou une Allemande.
Oui, exactement.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Marc-André
Mais.
a bien compris.
Ouais, je pense que ce sera soit un Sébastien ou un Nico.
Et le Nico a peut-être perdu sa chance avec le fait que Sergio Pérez devienne disponible. Peut-être que ça devient plus intéressant pour une écurie d'aller chercher, pardon, Sergio Pérez au lieu de Nico. Donc, c'est ça qui est le fun avec le mercato de la Formule 1. C'est imprévisible. Tout peut arriver. Et je pense que ça peut nous donner d'excellents résultats à suivre encore avec deux places potentielles disponibles.
Ouais, donc ça, surveillez cela parce que, évidemment, c'est le mercato de la Formule 1 n'est jamais fini. Bon, êtes-vous prêts? Là, on parle vraiment. Ça nous a pris 16 minutes pour parler du Grand Prix, pour commencer à parler du Grand Prix d'Italie, là. Merci beaucoup, Sergio.
On y est.
Merci beaucoup, Sergio. On te remercie vraiment. Wow. Bon, OK, Grand Prix d'Italie. Oh mon Dieu, quel Grand Prix ce fut. Si vous avez manqué cette course, allez regarder tout de suite l'effet saillant. Arrêtez le podcast, allez regarder l'effet saillant, puis revenez nous voir. Puis revenez nous écouter, parce que je vais vous donner le classement qui est totalement inhabituel. Victoire de Pierre Gasly sur la AlphaTauri, devant Carlos Sainz sur la McLaren et Lance Stroll sur la Racing Point. Oui, c'est le podium du Grand Prix du Grand Prix d'Italie 2020. Quatrième place.
Es-tu sûr que c'est pas la liste d'abandon?
Non, ou bien même non, ou bien même F1 2020 après quelques saisons dans le mode carrière. Quatrième, Lando Norris. Cinquième, Valtteri Bottas sur Mercedes. Daniel Ricciardo sur Renault, Lewis Hamilton, oui, Lewis Hamilton, on en reparlera plus tard. Esteban Ocon, 8e, Daniel Kvyat, 9e, et justement, parler de Sergio Perez, il a terminé 10e. Alors, Anna Maria, Marc-André, je vous donne ici la liste des vainqueurs français depuis 1950. Maurice Trintignant, qui a deux victoires. François Sévère, une victoire. Jean-Pierre Beltoise, sa magnifique victoire au Grand Prix de Monaco 1972 sous la pluie. Jacques Lafitte, six victoires, dont une en 81 au Canada, où Gilles Villeneuve avait fini troisième. Patrick Depailler, deux victoires. Jean-Pierre Jabouille, deux victoires, dont une qui a été complètement ombré par le beau duel entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. Et on a René Arnoux, 7 victoires. Didier Pironi, 3 victoires, dont une dont les Québécois voudraient oublier totalement, c'est-à-dire Imola 82. Alain Prost, 51 victoires. Patrick Tambay, 2 victoires. Jean Lézy, sa victoire le jour de son anniversaire au Canada, 95. Olivier Panis à Monaco 96 et maintenant Pierre Gasly, une victoire et peut-être plus. Alors, qu'avez-vous pensé? Est-ce que ce Grand Prix d'Italie 2020 est le plus et le est la meilleure course de l'ère hybride? Marc-André.
Non.
Non!
Non, je pense pas.
Non.
Je pense que c'est l'une des bonnes courses parce que le résultat est assez surprenant et intriguant. Mais si je reviens tout simplement à l'année dernière, par exemple, dans un Grand Prix d'Allemagne sous la pluie, où les résultats ont été autant surprenants, Mais il y a eu de l'action, alors que cette année, je dirais que l'action a été créée par un incident malheureux, qui est l'accident de Charles Leclerc, qui a causé malheureusement un drapeau rouge dû au fait qu'on a dû reconstruire le muret de sécurité. Et je pense que c'est certain que c'est épatant de revoir un deuxième départ arrêté, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite réellement. Mais non, je pense que ça a été une excellente course. Ça nous a tenus sur notre siège, au bout de notre siège, c'est sûr, vers la fin. On n'a pas été aussi éclatant que le commentateur français à la fin, mais on était
Julien Febvre.
aussi excités de lui parce que on voulait que Pierre Gasly gagne après toute l'histoire qu'il y a derrière lui avec la rétrogradation de chez Red Bull, l'irrespect aussi un peu de Christian Horner et les dirigeants de Red Bull à son égard. Il revient en force et il la mérite, cette victoire. Oui, il y a eu les incidents. Oui, il y a eu tout ce qu'on peut connaître avec la pénalité d'Hamilton. On va y revenir plus tard.
Ouais.
Mais tout ça fait en sorte qu'il a remporté une première victoire en 24 ans pour le fameux pays de France. Alors, je pense que c'est l'une des bonnes courses, mais je ne peux pas la mettre en première position, selon moi.
Donc, toi, tu dis que Allemagne 2019, c'est la meilleure course, selon toi, de l'ère hybride. Donc, depuis 2014.
Je pense que oui, ouais.
OK, mais.
Selon ce que je me souviens.
C'est ça. Non, je suis d'accord. Allemagne, c'était une maudite belle course. Anna Maria, toi, est-ce que toi, tu disais non, hein, pour l'Italie comme sa meilleure course, la meilleure course de l'ère hybride?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est sûr que, comme tu te dis, Marc-André, ça a commencé et moi, je pensais que ça va être la même chose que Spa. C'était comme plate, tout le monde se suivait, il n'y avait pas de dépassement, tout était comme tranquille. Et s'il n'y a pas eu l'incident de Leclerc, je pense que ça aurait été une course plate. Pas d'émotion, pas beaucoup d'émotion, même si c'est le temple de la vélocité, on savait que les autos n'étaient pas si rapides, il y avait de la difficulté à se tenir en piste si essayait d'aller trop vite. Mais non, mais c'est sûr qu'il était amusant, on s'est régalé à la fin. Comme disait Marc-André aussi, quand tu me dis une bonne course, l'année passée, Allemagne, c'est une de ces bonnes courses qui se passent. Je dirais pas la meilleure non plus, mais ça qui me vient à l'esprit tout de suite,
Ouais, exact.
c'est celui-là. Parce que quand même, c'est depuis 5, 6 ans qui a commencé l'ère hybride, mais c'est l'année passée qu'il y avait plus de compétition parce que Ferrari aussi, il faisait de la pole, hein, il se battait à l'avance, même si les moteurs étaient un peu truqués à la fin, mais c'était un peu plus difficile pour Hamilton aussi. Je pense que l'année passée, il a profité beaucoup parce qu'il y avait de la compétition. Il n'était pas toujours tout seul. Aussi, l'année passée, Monza, il était mieux aussi. Il y avait Leclerc, il y avait la Ferrari qui avait la pole et Hamilton qui n'a pas réussi à sortir à l'avant, qui se battait pour la tête de la course. Mais cette année, c'est juste ou quelque chose qui a tout chamboulé
Ouais.
parce
Oui, certain.
que, oui, parce que. Si il n'y a pas le drapeau rouge de Charles Leclerc, peut-être on n'a pas eu besoin de la pénalité à Hamilton.
Je dirais même l'abandon de Kevin Magnussen.
Et c'est sûr, et c'est beaucoup de choses qui ont changé. Et en plus, c'est la première fois que je me rappelle depuis longtemps qui ont fait le départ arrêté depuis un drapeau rouge.
Ben en fait, c'est ça, c'est la première fois parce que
Là,
c'était une nou nouvelle règle. Parce que après
oui, c'est
Oui, c'est ça, c'est une nouvelle règle parce que pour la première, en fait, je pense que ça a été instauré il y a 2 ou 3 ans, en fait.
2017, je pense.
Ouais, exact.
Oui.
2018, je pourrais.
2018? OK,
2018,
2018.
parce que là, il faut se rappeler, avant Italie, la dernière course arrêtée sous drapeau rouge, c'était Azerbaïdjan, puis il n'y avait pas eu le départ arrêté. Donc,
OK.
donc
Non.
ça doit être 2018. Donc, maintenant, toute course après drapeau rouge doit être, il y a un départ arrêté, puis c'est quelque chose de rare, un drapeau rouge, puis, et on a eu cela. Donc, ça ajouté à ça qu'on a annoncé la pénalité à Lewis Hamilton et à Antonio Giovinazzi, avec le fait que Lance Stroll, on va revenir sur Stroll, entre autres, le fait que Lance Stroll, bon, soit deuxième et qu'il ne se soit pas arrêté, donc il avait un arrêt au prix gratuit et tout, là. Donc ça a mélangé, ça a brouillé les cartes. Donc je comprends. Donc c'est comme une course en deux parties, en fait. Sinon, moi je vous dirais, bon, ça rentre facilement dans le top 5 des plus belles courses que j'ai vues, personnellement. Mais moi, s'il y a un Grand Prix que j'ai adoré, le meilleur Grand Prix, peut-être que personne, ça va être matière à débat, c'est Chine 2016. Grand Prix de Chine 2016, qui est facilement reconnaissable parce que c'était la naissance de Daniel Torpedo Kvyat.
C'est torpedo.
Mais, à part le Torpedo, c'est une course où il y avait Daniel Ricciardo qui avait pris qui avait volé le ben, pas volé qui avait pris la tête de la course dès le départ contre Nico Rosberg avant je pense dans le tour suivant de subir une crevaison. Il y a Lewis Hamilton qui a eu des problèmes qui a eu des problèmes un de ses nombreux problèmes avec son moteur qui a été impliqué dans un accrochage avec la Sauber de Felipe Nasr. Il y a eu ensuite toute la voiture de sécurité qui est intervenue pour qu'on puisse ramasser les débris. Et ensuite, tout le monde s'est arrêté. Donc, ce qui a provoqué, en fait, un classement complètement mélangé où tu avais anciennement l'écurie Manor qui était. Je me souviens, Pascal Wehrlein était quatrième. Donc, il y avait tout le monde qui devait se battre. Ça a été une course complètement remplie d'action, tour après tour après tour. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai adoré ce Grand Prix, parce que tu avais de l'action au départ et même à la fin. Même si Nico Rosberg a malgré tout a malgré tout dominé ce Grand Prix, mais tu avais de l'action pour de la deuxième jusqu'à la dernière, et en plus personne n'avait abandonné. Donc, c'est pour ça que je mets Chine 2016 comme étant moi ma course préférée de l'ère hybride, même si je me souviens à la fin de l'année dernière, je l'avais placé 14e dans le classement des courses décennies parce que je suis allé avec celles qui étaient les plus évidentes, avec Canada 2014. T'avais quelques courses de 2014 aussi qui étaient qui sont devenues des classiques. Canada, Bahreïn, Hongrie. Ces trois-là, ce sont des classiques. États-Unis 2018, ça, pour moi, c'est un classique parce que c'était une belle bataille et avec la victoire de Raikkonen aussi, qui était assez remarquable. Donc, en gros, oui, Italie 2020, c'était une belle course, mais y a eu mieux. C'est sûr, parce que on a un nouveau vainqueur, donc c'est ce qui caractérise le plus ce Grand Prix, comme ce fut le cas en Italie 71, quand Peter Gattin a remporté sa première victoire avec, je pense, 7 centièmes de seconde, mais parce qu'il y avait François Sever aussi qui était dans la course pour la victoire. Donc, c'est une course qui va passer à l'histoire, mais dans l'ère hybride. Pas vraiment. Ben, pas vraiment, je veux dire, c'est pas la meilleure course, personnellement. Donc,
Je suis d'accord.
voilà, je pense que Pour moi, donc, toi, Marc-André, tu as Chine t'as Allemagne 2019. Moi, j'ai Chine.
J'ajouterais aussi peut-être Autriche 2019, qui
Oui,
était une course assez intéressante avec une chicane à la fin entre Leclerc et Verstappen. C'était
oui.
une
Ouais.
des bonnes courses, je pense, de cette décennie de l'ère hybride, de ce 6 ans, en fait.
Ouais. Et toi, Anna Maria, c'était rappelle-moi, c'était quoi ta course préférée de l'ère hybride?
De la dernière, je dis que c'était Allemagne l'année passée.
Ah, ok, oui. Oui.
Allemagne. C'était, oui, avec la pluie, et avec les Mercedes qui faisaient des erreurs pour la première fois.
Ouais. Ouais. Donc, non, c'est ça. Donc, on a deux Allemagne 2019 et moi, Chine 2016. Donc, je vous pose la question, quelle est votre plus belle course de l'ère hybride de Formule 1? Donc, laissez-le-moi savoir sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram aussi. Alors, c'est ça. Donc, il va y avoir probablement les mêmes réponses ou bien celles différentes. On va parler de Pierre Gasly, notre vainqueur. Oui, il a remporté le Grand Prix, mais un tour de plus, puis je pense qu'on aurait parlé de Carlos Sainz comme vainqueur. Mais il faut quand même expliquer que Gasly a eu tout de même une course tranquille avant l'intervention de la voiture de sécurité. Et il faut préciser aussi, il faut préciser, mais féliciter aussi la stratégiste de AlphaTauri qui a décidé de faire entrer Gasly lorsque, avant l'intervention. Avant la fermeture de la ligne des puits et l'abandon de Kevin Magnussen aussi. Donc, parce que, évidemment, et en plus, durant le drapeau rouge, il a changé ses pneus. Il est passé des pneus durs au médium pour se donner une chance. Alors, qu'avez-vous pensé de la course du 109e vainqueur différent en Formule 1, Anna Maria?
Je dirais que je suis content pour Gasly. Ça là qui lui dans sa Toro Rosso ou Alfa Tauri, c'est là que lui est bien. Je te disais dans les derniers podcasts, je peux pas dire que ça décollait et que ça va tenir pendant toute la session, mais quand sa tête est là, quand lui est pompé, ça marche, je sais pas c'est quoi ce qu'il a, mais lui, quand il se met dans la tête, ça va aller bien, ça marche. Il a un pouvoir de résultats comme ça, que lui a même gagné le Grand Prix tant que les deux Red Bull n'étaient même pas là dans la course.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as bel et bien raison. Les Red Bull n'étaient jamais dans le coup. Puis AlphaTauri a été vraiment l'écurie qui a été pas mal dominante dans la guerre des Red Bull. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh,
Oui.
Ah, je pense qu'on a perdu Anna Maria, en fait.
Ouais, Maria. Bon.
Donc, temporairement. Donc, Marc-André, toi, qu'as-tu pensé, en attendant qu'elle revienne, qu'as-tu pensé de la course du Français?
Excellente course. Comme j'ai mentionné, je pense que oui, il a profité d'un peu, comme tout le monde, les circonstances de la course, mais ça reste que sa tête y était. À la fin de la course, c'était pas facile, là. Il fallait éviter les erreurs, il fallait éviter la pression de Carlos Sainz, qui est un pilote qui est beaucoup plus expérimenté que Pierre Gasly dans ce type d'occasion. Et j'ai noté aussi une frustration au niveau de Norris après la course, qui mettait en question la règle de pouvoir changer les pneus au cours du drapeau rouge. Pour lui, c'est une règle qui ne devrait pas y être. Je suis un peu d'accord avec lui à ce niveau-là. On pourrait peut-être en discuter une autre fois dans ce podcast-là ou dans un autre, mais le point n'est pas là. Mais je pense que Pierre Gasly a tout fait pour réussir à gagner ce Grand Prix-là et pour devenir une fierté française On a vu beaucoup de commentaires dans les dernières semaines, dans les derniers jours, pardon, en lien avec cette victoire-là. Et ça veut en dire beaucoup sur qui est Pierre Gasly en réalité. Quand il se trouve confortable dans une voiture, il est là à 100%. Et on a vu des commentaires de Pierre Gasly aussi après, je pense que c'est Sky Sports qui a récupéré ses commentaires, mais il se dit prêt maintenant à entrer chez Red Bull. Alors, la porte est ouverte du côté de Pierre Gasly. Maintenant, est-ce que ça va devenir réalité? Je ne pense pas. Mais du moins, peut-être qu'il prend confiance et qu'il pourrait un jour revenir dans la grande écurie autrichienne.
Ouais, ça va être à voir, mais moi je pense évidemment. moi je suis très content de voir Gasly gagner cette course, mais j'étais même surpris parce que il a tenu le coup. Parce que Carlos Sainz était clairement plus rapide que la AlphaTauri, ça c'était clair, on l'a vu. Mais aussi cet esprit où il a essayé de briser l'aspiration, on l'a vu sur les longues lignes droites.
En fin de course,
ouais. En fin de course, exactement. C'était assez intelligent de sa part parce que il sait que Sainz était plus rapide, que ses pneus étaient pas mal finis en quelque sorte aussi. Alors, ce qu'il devait faire, c'était juste gérer sa course et ne pas s'inquiéter de Carlos Sainz. Donc, je suis vraiment content pour lui. Puis, on l'a dit dans le dernier podcast, moi, je pense que Gasly devient de plus en plus constant. La victoire, c'est sûr que personne ne s'y attendait. Mais ça prouve aussi que le Français est capable de... C'est un Pierre Gasly 2.0 qu'on voit cette saison. Alors, pour moi, le fait qu'il soit capable, qu'il ait été capable de résister à toute la pression parce que c'était la première fois qu'il menait une course...
Ça veut en dire beaucoup.
Ça veut en dire beaucoup. Alors, je pense que Gasly a fait un travail mental énorme. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que parce que c'est tellement facile quand tu mènes, tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est parce que c'est énorme, c'est une pression énorme que tu as. Tu dois te dire, est-ce que je fais les trucs correctement? Est-ce que
je fais bien les virages? C'est... Ouais, tu as raison.
C'est ça, donc...
Mais aussi, Adou, il venait de faire une bonne performance en Espa. Parce qu'il était déjà, il avait la tête, il n'y avait pas de pause. Il est juste passé d'un Grand Prix à un autre Grand Prix. C'est vrai que il a bien géré ça, mais aussi c'est vrai que Monza c'était un circuit, c'était difficile à dépasser. Même Hamilton, il a pris le temps, c'était long. Il y a d'autres pilotes comme Bottas qui jamais réussi à avancer. Et on sait que la Mercedes, ça marche, il est bon. Lui, il avait la tête, lui, il avait juste à tenir les coups en avant, même si l'autre il était rapide, pour lui, c'était juste pas de faire des erreurs, rien, il s'est tenu. Maintenant, il faut qu'il soit constant.
C'est ça. C'est une question. Parler,
il faut l'envoyer à Red Bull parce que c'est une autre histoire. Et lui est confortable en AlphaTauri. Ça va bien, il n'y a pas de problème, surtout, il n'y a pas de pression. Mais dès que lui il revient encore à Red Bull, tu sais que là,
la pression monte.
Ouais. Là, la pression monte et là, il y a
Verstappen.
Il y a Max et Max à côté, c'est ça qui n'était pas facile à gérer quand Gasly était de côté Red Bull. Lui, il ne pouvait pas avec Max, il se plaignait toujours, ça ne marche pas son auto. C'est sûr, il avait la tête juste concentrée à voir ce qu'il faisait Max. Il juste voulait battre Max et pas faire ça. Max, c'est une autre chose.
C'est ça. Donc,
Ouais, c'est. J'espère qu'il va aller bien à Fatahori, qu'il soit constant surtout, mais il faut pas être pressé non plus pour aller en Red Bull parce que ça change beaucoup la donne si lui il revient en Red Bull.
ouais. Donc, c'est ça. Et puis, même Helmut Marko a dit, ben, c'est pour le moment, il n'y a pas question de pour faire un autre échange entre Alex Albon et Pierre Gasly. On va
Pour la
parler,
stabilité.
ouais, une question de stabilité surtout en fait. On va parler de celui qui a terminé deuxième, Carlos Sainz, une deuxième place aigre-douce, on pourrait dire, ben, amère. On pourrait dire, mais un peu joyeuse aussi, parce que l'Espagnol, on va se le dire, un tour de plus et il était le vainqueur du Grand Prix d'Italie. Mais, il faut pas se le cacher, l'Espagnol a connu une très bonne course dans l'ensemble et même une belle fin de semaine. Il s'est qualifié. Faut pas l'oublier que Sainz s'est qualifié troisième. Il s'est qualifié troisième dans les derniers instants des qualifs. Et en plus, il a profité d'un autre départ brouillon et trop prudent de Valtteri Bottas pour monter deuxième. Donc, c'est sûr que la voiture de sécurité a aidé, comment je pourrais dire, n'a pas aidé Carlos Sainz. Mais il faut quand même pas l'oublier que l'Espagnol était, d'après moi, outre la Mercedes, possédait la deuxième meilleure voiture du Grand Prix. Qu'est-ce que vous et vous qu'avez-vous pensé de la performance de Sainz?
Ben écoute, je pense que durant toute la fin de semaine, il a prouvé qu'il y avait, comme tu l'as dit, probablement la deuxième meilleure voiture de la fin de semaine, alors que Red Bull n'y était pas du tout à Monza, comme ça avait été très difficile en Belgique. Mais il a été solide, honnêtement, c'est le seul mot qui me vient en tête. Il a vraiment été solide, honnêtement, c'est un bon pilote, puis on le voit. Maintenant, tu l'as dit, je pense qu'il aurait adorer avoir sa victoire. Et en plus de tout ça, il regarde sa voiture, il se dit, hey, es-tu bonne cette voiture-là? Je m'en vais chez Ferrari et je sais pas ce que je vais avoir. Donc, ça doit commencer à tricoter dans sa tête cette décision de s'en aller chez Ferrari, qui était la décision à prendre, bien sûr, dans le contexte où il l'a fait. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il se mord un peu les doigts en voyant à quel point sa voiture peut être performante.
En plus, il ne peut pas revenir en arrière. Hein?
Non,
Il y a quelqu'un
non.
déjà qui a pris la place.
Non, désolé Carlos. Bah, regarde, comme on l'a dit, un contrat, ça peut changer. Donc,
Oui.
mais dans le cas de Carlos Sainz, c'est trop. Comme Drake le dit, if you're reading this, it's too late. Donc, désolé Carlos. Mais sinon, toi Anna Maria. Carlos Sainz, as-tu été impressionné par la performance de Sainz en fin de semaine?
Mais oui, bien sûr, c'est moi, je suis très exigeante des fois, mais je dis, je m'attends à ça quand je vois que c'est un pilote qui vient de l'école Red Bull, qui a monté en même temps que Max Verstappen
Oui.
et qui, quand même, il y a déjà 5 ans en Formule 1, fait que, il y a maintenant, il y a une bonne voiture. Et cette année, lui est capable, mais ça n'est pas très bien parce qu'il y a des petites choses qui se passent. Il a aussi Lando Norris qui est très bon aussi. Il fait des bonnes performances cette année. Il a même fait des podiums. Il s'est battu à l'avance. On sait que la voiture il est là. Mais la seule chose qui manque, c'est voir à Sainz à l'avant. Et c'est ce qu'il a fait à Monza. Et c'est très bien. Lui, je pense qu'il était comme Gasly. Il a mis sa tête, il dit, il fait mon mieux. En plus, il s'est montré devant la fiction qu'elle attend l'année prochaine. Il fallait qu'il fasse mieux. C'est ça la pression quand tu vas à Ferrari, même si la voiture y est mauvaise, il faut dire, regarde, pourquoi je suis là. Disons que ça fait des années que Ferrari, il n'y a pas ou de pilote qui est pas champion du monde.
Ouais.
Il a commencé avec Leclerc parce qu'il vient de l'école Ferrari et on était surpris parce qu'ils ont pris à Carlos Sainz qui vient de l'école Red Bull et qui n'est pas champion du monde parce qu'avant il y avait toujours un champion depuis longtemps à Ferrari. L'année prochaine, il n'y a pas de champion parce que cette année, ils font doute.
Ouais, heureusement, on ne
Que
parle pas de Ferrari.
Leclerc, oui, heureusement, Leclerc a profité bien les premières courses.
Ouais, au moins, donc, moi, je
Oui,
pense
parce
que.
que sinon, mais Carlos Sainz était bon. Je pense qu'il était un peu désolé parce qu'il disait, mais il a sorti en troisième place. Oui, le monde, des fois, les pilotes, ils se plaignent, non, mais. Il n'y a pas de chanceuse parce qu'il y a le drapeau rouge, mais oui, c'est la course. On s'attend, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer. L'idéal, c'est une bonne course, pas de problème, et que ton stratégie marche à la perfection. Mais ce n'est pas comme ça. Les accidents ne sont pas planifiés, les drapeaux rouges ne plus. Les réglementations pour le drapeau rouge y étaient là depuis longtemps.
C'est ça. Ah ben.
C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Les nouveaux, c'est de pas arrêter. Mais les changer des choses pendant l'arrêt de drapeau rouge, oui, ça était là depuis longtemps. Et tu sais, s'il n'y aurait pas eu le départ arrêté, ça aurait été pire. Parce
Oui.
que Stroll, il avait pas besoin de faire un départ arrêté, pas besoin de faire des erreurs, juste suivre les safety car et après continuer sa course, que c'est pas la même chose que faire un départ arrêté en milieu de la course. Et ça fait longtemps, et dans la Formule 1, ça savait pas, j'ai pas avait. Il n'y a pas eu de départ arrêté, ça fait longtemps, au moins. Mais c'est ça. Mais lui, a fait une bonne course. Il s'est battu, mais c'est ça. Gasly, il a tenu le coup.
Oui, exactement. Et justement, c'est drôle que tu me parles de Stroll parce que tu sais, en ce moment-là, au moment où on enregistre, il y a l'Impact de Montréal et le Toronto FC qui jouent. Donc ça, c'est le foot de le soccer de la Major League Soccer. C'est 1-1 en ce moment à la 86e minute de jeu. Et vous savez quoi? Ben, ils ont comme il n'y a pas de chanteur. Ou chanteuse, devrais-je dire, pour chanter l'hymne national, ils ont joué l'hymne canadien. Classique. Puis, vous savez quoi? Moi, je pense que c'est ce même hymne qu'on aurait dû entendre ce dimanche à Monza. Vous ne trouvez pas? En gros, c'est.
Ah, oh, on disait que pendant le drapeau rouge, on avait comme la course, mais c'est ça, c'est un départ arrêté, c'est pas Stroll le seul qui a fait des erreurs, et c'est pas la même chose, et le pilote n'a pas eu le temps de réchauffer les pneus, c'est
Ouais.
aussi la pression, disons que c'est pas pareil. En plus, il ne veut pas se faire toucher pour quelqu'un. Et tu te rappelles, Stroll, il est resté comme trois sauts ensemble, presque.
Ouais, parce que je pense qu'il était derrière
Il était
Giovinazzi.
proche. Oui, il était coincé derrière Giovinazzi. C'est ça aussi, parce que lui, il est largué, mais il était comme coincé derrière Giovinazzi. Il a perdu Sainz d'un côté, Gasly de l'autre côté, et c'est là que tout était fini. Et après, avec la pression, je pense qu'il a fait il était passé. Il a coupé la chicane.
Ouais, la deuxième, c'est ça, la deuxième chicane.
Oui. Oui, à couper la option chicane et après ça, c'est juste qu'il a dû remonter les Alfa Romeo. Et c'est ça, mais c'est ça, il y a eu la chance, mais on ne peut pas le lamer non plus. Il y a eu la chance, mais lui, il a largué depuis la 8e place ou 9e place. C'était pas mal non plus faire un podium.
C'est ça, parce que Lance Stroll, pour vous mettre en contexte, donc quand je dis l'hymne national canadien, ben parce que Lance Stroll aurait pu gagner ce Grand Prix, honnêtement. Parce que désolé, je suis un peu déconcentré parce que on parle de Canada, ben Toronto vient de marquer malheureusement, donc c'est de en fin de match. Donc, non, c'est ça, je pense que Lance Stroll, effectivement, aurait pu gagner ce Grand Prix. Ben, il a profité de la règle, justement, des changements de pneus et des réparations, des dommages sous le drapeau rouge pour, justement, chausser des pneus. Puis, je trouve aussi
Mais je
que...
le dirais,
Oui, vas-y.
désolé, mais je le dirais pas comme ça qu'il a profité de la règle. Pourquoi? Parce que c'est son stratège qui s'arrive que lui, il s'est rendu jusqu'à là. C'est pas le drapeau rouge, parce qu'en fait, le drapeau rouge, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas juste ma Stroll qui pouvait changer les pneus, c'est sûr, il y a un arrêt gratuit, mais ça fait partie de son
C'est
stratégie
vrai.
et c'est la même stratégie qu'avait Leclerc si lui, il n'avait pas endommagé, il n'avait pas son tout
Son
perdu le
accident.
contrôle,
Ouais.
il fait son accident, c'est sûr qu'il y avait la stratégie à Leclerc aussi de faire un seul arrêt. Et c'est là que Stroll y a gagné dans la stratégie. C'est l'équipe, c'était bien joué, mais il y a eu la chance qu'il y ait un drapeau rouge et c'est ça.
Oui, parce qu'il ne faut pas
C'est
oublier
pas juste
aussi.
lui, mais Bottas aussi, il a profité. Et Bottas a changé de morceau d'auto aussi.
Il y a Pierre Gasly aussi, hein?
Mais oui, Bottas, il y avait des discussions entre le commissaire et la FIA, il y avait des morceaux d'auto parce que Bottas, pendant comment ça se dit, avant le tour de formation, il a fait comme, il a monté sur le vibrateur, sur les deux bananes, il a un peu dommagé son auto et après quand il y a eu le drapeau rouge, il essayait de changer les deux morceaux.
Ouais, ah, sacré Valtteri. C'était pas sa course en tout cas. C'était clairement pas
Non,
sa
ouais,
course.
effectivement.
Ben, c'est ça, justement, et pour continuer un peu à ce que Anna Maria disait aussi, il faut pas oublier aussi que Pierre Gasly aussi a profité, comme je l'ai mentionné, Gasly a profité du change de ce drapeau rouge pour passer des pneus durs, parce qu'il s'était arrêté au puits avant la fermeture de la ligne des puits, pour passer au médium. Et il a profité du mauvais départ de Stroll pour justement passer deuxième et passer premier ensuite. Donc, il faut saisir. C'est facile de dire que un pilote est chanceux, mais il faut toujours saisir ses opportunités. Certes, Stroll a fait une erreur. Son départ était mauvais. On peut blâmer ça sur les pneus, le coup, le, parce qu'il se retrouvait sur le mauvais côté de la piste et tout. Mais le fait qu'il ait été trop pressé de dépasser Giovinazzi, sachant en plus qu'il avait une pénalité, ben pour moi c'est ce qui est, pour moi je pense c'est cette partie qui lui a fait perdre ce Grand Prix et même une deuxième place dans le pire des cas, dans le pire des cas même. Dans le meilleur des cas, je voulais dire.
Mais c'est quand même dommage pour lui parce que, en fait, Stroll, c'est un pilote reconnu pour faire de bons départs, de pas rater les départs. Il a toujours gagné des places dans les départs, mais c'est ça. Il s'est retrouvé là, il n'y a pas. Disons qu'il n'y avait pas la chance et il ne savait pas trop, c'est pas non plus un circuit que lui ne connaît pas bien, parce que lui il connaît bien depuis la F3.
Ouais.
Mais c'est la course, regarde, Hamilton il a fait une erreur et ça lui a coûté beaucoup.
C'est ça. Puis et pour terminer sur Stroll aussi, ben il a été quand même capable de rester à une bonne distance des deux premiers aussi. Donc et de s'éloigner de Lando Norris aussi parce que la McLaren était plus rapide que la Racing Point. Donc en gros, moi je suis quand même assez content de la performance de Stroll, même si il y a un côté de moi qui aurait voulu le voir monter sur le podium. Puis, et juste adresser aussi, Lando Norris n'était pas très content parce que il trouve vous en avez parlé de la règle du drapeau rouge, mais c'est la même pour tout le monde. C'est sûr que Norris s'est retrouvé dans une position défavorable. C'est normal, mais il faut pas oublier que un drapeau rouge, c'est quelque chose de très rare. Dans une course. Je dis pas dans une.
Très inhabituel.
C'est très inhabituel. Et en plus, c'est pour une question de sécurité. Parce que si les barrières ont été détruites par l'accident de Charles Leclerc. Et en plus de cela, tu veux pas revenir en piste avec des morceaux. Ben, avec des pneus où les morceaux sont. Où tu as des morceaux des débris et tout, là, ça peut arriver. Mais évidemment, les écuries vont prendre l'opportunité pour tout réparer. Comme ça, au moins, tu es sûr de revenir. Donc, c'est ça, je trouve
Oui,
que.
mais aussi à Doul, on comprend que mais la règle, c'est sûr que si tu es, si c'est pas toi qui profites, tu n'es pas content. C'est comme ça, toujours les pilotes. Si sont pas eux qui profitent, ils sont pas contents. Quand ils sont eux qui profitent, ils disent rien. Mais c'est sûr que si après l'arrêt, tu vas faire un départ à retrait,
Avec des pneus
mais
qui
il
sont
faut
déjà mal
laisser.
gammés, ça peut être dangereux.
Oui,
C'est
il faut
ça.
laisser les autos faire des changements parce que, comme tu dis, si peut-être il y a un aileron qui est un peu cassé ou n'importe quoi, mais c'est mieux le changer. En plus, si tu fais un départ arrêté, c'est plus dangereux. Et rentrer avec une auto endommagée parce que tu ne peux pas toucher que changer qu'est-ce que tu dois changer. Mais de toute façon, c'est pour tout le monde. Et comme l'a dit le boss à McLaren, il a dit,
Andrea
oui, Norris
Seidel.
n'était pas content, mais on connaît, oui,
La
et
règle.
lui a dit, oui, on connaît très bien la règle, il n'y a pas de problème avec ça. L'équipe, il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense qu'aucune équipe, il y a aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que pilotes comme Norris, ils sont jeunes, des fois, ils ne connaissent pas très bien les réglementations, ils se trouvent comme plus surpris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comme beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde en Twitter, ils disent, oh non, mais là, ils vont donner la chance, ils vont faire un arrêt gratuit. Oui, mais c'est pour le monde, n'oublie pas la
Oui,
réglementation,
ouais.
il est autant là-dedans.
Et si je peux me permettre aussi, c'est pas la première fois que ça arrive, hein? Souvenez-vous de Romain Grosjean en 2016 avec Haas, hein? C'est grâce à ce drapeau rouge qu'il a pu terminer sixième, parce que c'est ça, comme je disais, il a eu le tout sur un plateau d'argent, puis il en a profité pour inscrire les premiers points, puis il a défendu très bien contre Nico Hülkenberg, si je me souviens bien. Donc, et même Sébastien Vettel en 2011, alors que ses pneus étaient capotes à Monaco, un drapeau rouge lui a permis de repartir au loin. Donc, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est très, très rare. On va rester dans le sujet des pénalités, mais on va parler de celle qui a changé le cours du Grand Prix, la ligne des puits fermée. Très rapidement, en fait, c'est que Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi se sont arrêtés lorsque la ligne des puits était fermée, parce que les commissaires de piste devaient pousser la Haas immobilisée de Kevin Magnussen. Et en gros, les écuries ne pouvaient pas. ne pouvaient pas, ben les plantes ne pouvaient pas rentrer
Ouais.
jusqu'à ce qu'ils reçoivent le go au temps de la FIA.
D'accord.
Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans le pire dans tout ça, c'est que autant Hamilton n'a pas vu les autant Hamilton que Giovinazzi n'a pas vu, n'ont pas vu en fait les panneaux de signalisation qui disent que
Les écuries ont laissé ça.
ouais, et pire que ça, et même Mercedes a admis leur tort. Ça, c'est ce qui est encore pire. C'est qu'on ne lui a pas dit que la ligne des puits était fermée. Et ça, c'est un gros, 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 gros manque de communication. Je veux dire,
Énorme.
normalement,
Oui.
parce que ça a été un ingénieur qui était à Brackley, l'usine de Mercedes, qui a dit que la ligne des puits était fermée. Et normalement,
Ça,
ça c'est grave, ça.
c'est
Ça,
grave. C'est
c'est.
rare de voir ça de la part de Mercedes aussi, une
Oui.
écurie qui habituellement est très flexible et réagit rapidement sur n'importe quelle conséquence ou circonstance de la course, devrais-je dire. Donc, c'est surprenant de voir ça. Maintenant, je suppose pour vous, je vais vous poser une question. Est-ce que c'était la bonne chose à faire de pousser la voiture alors qu'il aurait pu la reculer? J'ai l'impression
Moi,
que
oui,
de ce
vas-y.
côté-là aussi, ça a peut-être surpris les écuries, non?
Moi, je te dirais que c'était la bonne chose parce que je pense que les commis la zone, je ne sais pas si elle était assez
Non, c'est ça.
spacieuse pour faire entrer une voiture. Surtout que normalement, dans la situation, la voiture est encore chaude. Là, on ne parle pas de 450, on parle de probablement une voiture à presque plus de 1000 degrés. Donc, les commissaires ne sont pas entièrement équipés pour pousser une voiture encore chaude comme celle-là. That's what she said. Abdou! Ok, bref. Vous avez rien entendu. Donc, non, c'est ça. Donc, ça aurait été, et en plus, je pense, ça aurait été aussi bien de pousser la voiture dans un endroit plus sécuritaire aussi. Donc, les commissaires de piste ne sont pas stupides. Et en plus,
Non, exact.
il y a une réduction de personnel aussi à cause des mesures prises à cause de la COVID-19. Donc, même les commissaires de piste travaillent à personnel réduit. Donc, c'était la bonne décision. Tu peux pas, au nom de la sécurité, omettre de faire des trucs.
Non, exactement, je suis complètement d'accord.
Si les commissaires jugent que c'est plus sécuritaire de pousser la voiture dans un espace où les écuries vont pouvoir le prendre à la fin de la course,
C'est ce qu'il faut
les
faire.
ingénieurs, c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je vois plus ça comme quelque chose de plus simple, plus sécuritaire à faire.
Oui, je pense aussi que peut-être Manusé y a pensé que la voiture pouvait rentrer là, mais les trous étaient pas si larges pour reculer, juste reculer la voiture derrière la barrière. Mais si on prend la décision de la pousser jusqu'à le
Il y
box,
avait des raisons aussi.
c'était la meilleure chose à faire. Et ce qui me surprend, c'est que d'habitude, quand il y a des choses comme ça, mais il y a toujours la vie dès que le puits est fermé. Il y a toujours, c'est pas une surprise, ça se passe tout le temps. Il n'est pas encore fermé, on voit la vie, si on dit le puits est déjà ouvert, c'est là que tout le monde il peut rentrer. Parce que je pense que Mercedes, ils sont trop vite dans la red, mais ils ont pensé qu'ils profitaient trop vite et même pas remarqué, parce que l'autre chose que j'ai trouvé un peu correct de côté Hamilton, oui, il a le droit de demander des explications, mais il a démonté de la voiture, il est allé jusqu'à le bureau des commissaires pour demander des explications.
Ouais, il y a le droit, il y a le droit, je veux dire.
S'ils sont dit, oui, lui, il a le droit, mais au moins, il y a eu son explication et après, il ne pouvait rien dire. Parce qu'il disait, oui, il n'y a pas de lumière, c'est pas correct. Mais oui, il a montré la vidéo, c'est là, la lumière était là. Ah, je ne regardais pas de ce côté, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il était en faute. Et oui, c'était dur la pénalité parce que un stop and go de 10 secondes, c'est trop. À mon sens, c'est beaucoup. Il était rétrogradé à la dernière place. Et après, même si on a baissé, c'est difficile à remonter. Oui, mais quand même, il y a eu des décisions dans des courses de pilotes qui se font bannir avec un drapeau noir pour des choses plus petites que ça.
C'est ça.
Moins dangereuses que ça. J'ai vu déjà, même ici au Canada, une fois Montoya, il s'est fait coller un drapeau noir pour petites choses dans la rete ou quelque chose comme ça, à Indianapolis aussi.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc, dans la circonstance, il n'était pas si pénalisé. Je pense que... il savait en sortir quand même. Il a eu ce point. Il n'a pas été hors de top 10. Et la prochaine fois, il va bien s'assurer.
Et Mercedes aussi. Et Mercedes aussi, parce que c'est vraiment eux.
Bien sûr, c'est une grosse erreur parce que quand quelqu'un me dit ah, ils ont fait une erreur avec l'arrêt de Pérez, c'est pas cool. Pourquoi? Il a rétrogradé, il a perdu deux places juste parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas sur un pneu. Mais c'est pas non plus la faute. Et des fois, ça se passe.
Ouais.
Il dit mais la gaffe de Mercedes il était plus gros, hein, ça coûtait beaucoup.
Ouais, exactement. Et on va compléter en fait avec une écurie dont on avait encensé la semaine dernière, mais qui va se retrouver où on va pas mal les critiquer en fait. C'est Renault, ou devrais-je dire dès 2021, Alpine F1 Team. Parce que oui, effectivement, Renault va laisser sa place à sa marque de voiture sport Alpine, qui d'ailleurs a déjà tenté de faire son entrée en Formule 1 avant Renault. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une des voitures au milieu des années 70 qui avait servi de projet pour Renault Sport. Donc, en gros, Alpine fait son entrée en Formule 1 dès 2021. Donc, le jaune et noir va être remplacé par le bleu, blanc, rouge. Alors, ça va être cela. Mais sinon, en fin de semaine, 6e et 8e, respectivement, pour Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Rapidement, est-ce que vous pensez que Renault a manqué une belle occasion de monter sur le podium?
Complètement. Complètement. Écoute, je pense qu'ils le savent. Autant les pilotes que l'équipe en général de Renault savent qu'ils ont manqué une belle occasion de faire des points importants puisqu'ils se considèrent, bon, selon eux, comme la troisième meilleure écurie après Mercedes et Red Bull. Et lorsque ces deux écuries-là ne sont plus dans le portrait, tu dois profiter de cette occasion pour marquer des points importants, une victoire ou un podium. Et vraisemblablement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Bon, là, il y a toutes les circonstances de le drapeau rouge avec les changements de pneus qui font partie de la course. Alors ça, c'est... Ça fait partie de la course. Alors, ils n'ont pas le choix d'accepter ça, mais effectivement, je pense qu'ils ont manqué une belle occasion de marquer des points importants. Et juste un petit mot, moi, je trouve que le rejet de Renault pour Alpine, ça marque un peu peut-être un échec au niveau de l'arrivée ou le retour, du moins, de Renault. Si jamais Renault avait du succès aujourd'hui, probablement qu'il ne prendrait peut-être pas la décision de changer de nom. Alors, je voulais juste faire ce petit commentaire.
Ouais. Anna Maria?
Oui. Oui, aussi, j'allais un petit peu plus loin parce qu'on parlait la semaine dernière à Espagne, tu disais Renault il est revenu, il est bien, et je disais, je ne fais pas confiance tant que je ne vois pas les
Ouais.
prochains
Oui,
présidents.
ça c'est vrai, on se souvient très bien de ça.
Oui, moi, je dis, je ne fais pas confiance, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe parce que non, mais. Il y a mes déçus beaucoup de fois, mais c'est ça, il devrait être là, parce que ça s'est bien passé, et ça devrait être là, à Monza, mais en qualification, il n'était pas là. Même que Ocon, dans la première, dans Q1, dans la première qualif, il a fait comme les mêmes choses qu'a fait Leclerc l'année passée. Il a tout bloqué tout le monde, mais que tous les pilotes qui étaient rétrogradés en arrière depuis la 15e place, il n'était pas capable de faire son dernier tour. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai dit, mais là, on ne peut pas faire ça. C'est comme lui était 12e, mais lui passait confortable. Mais ça a l'air que lui s'attendait que si tout le monde faisait son tour lancé, il peut-être se retrouvait hors des coups d'eau. Et j'ai trouvé ça un peu pas correct. Il était investigué, il n'était pas pénalisé, mais. Quand même, il y a beaucoup de pilotes qui n'étaient pas de bonne humeur parce qu'ils sont restés derrière, ils ne pouvaient pas rien faire. Et c'était difficile pour Ricciardo d'aller à Q3. Et Ocon, il n'a même pas réussi. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé entre Spa et Monza? C'est supposé aller très bien. La Mercedes de Hamilton marchait très bien. Les autres étaient plus ou moins comme ils étaient avant. Ouais, j'ai dit tout ça avant le drapeau rouge. Mais je trouve que oui, ils ont manqué l'opportunité de faire quelque chose de mieux. Et ils se disaient déjà dans la troisième place, presque, et je n'ai pas réussi à faire un bon coup, même que Ocon était fâché.
Oui, parce qu'à la fin, oui.
L'équipe lui donnait la félicitation, on a marqué des points importants, on a ramassé quand même, on était là, mais Ocon était fâché, même que Cyril il a dit presque, tiens-toi, on se parle après. C'est pas le moment de dire des choses pour que tout le monde écoute.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que Renault, je pense que, je sais pas, peut-être la fenêtre d'opportunité pour Renault pour inscrire de gros points, elle vient de se fermer en fait. Mais on verra ce que ça va donner à Mugello pour la première fois. Est-ce que ça va être un circuit qui va les avantager? C'est une grande inconnue. On verra cela. Donc, même en Russie aussi. À la fin du mois de septembre, tout ça reste à voir. Donc, c'est ce qui termine cet épisode assez chargé du bulletin F1. Mon Dieu, quel grand prix! Quel grand prix! Espérons qu'on en ait d'autres aussi, mais vous savez, la F1, ben, comme tout n'importe quel autre sport, tu pas, on a toujours les extrêmes. Alors, si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletinf1, sur Twitter, @lebulletinf1, et sur Instagram aussi, @lebulletinf1. Nous avons notre site web bulletinf1.com où vous pouvez lire les avant-courses, quelques chroniques aussi qu'on écrit, ainsi que les épisodes de podcast que nous avons. Et justement, comme on va être en territoire de Ferrari, littéralement, il y a l'épisode histoire, il y a l'autre balado diffusion que je produis Histoire de F1 qui parle de l'aventure nord-américaine de Ferrari au cours des années 80 lorsqu'ils ont tenté le coup sur IndyCar. Donc le tout se retrouve sur bulletinf1.com. Et d'ailleurs, la balado diffusion se retrouve sur toutes les plateformes préférées, donc que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Cast. Ça va se retrouver pas mal partout, donc n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, des reviews, des critiques constructives évidemment pour qu'on puisse s'améliorer. Alors, Marc-André, Anna-Maria, un énorme merci.
Merci à toi aussi.
Merci beaucoup à toi aussi, Adou. Et sois tout le monde gentil avec les commentaires que Adou, il n'a pas fait de blagues de Ferrari, ils n'ont même pas mentionné.
Ah, ben c'est vrai. Ben écoute, c'est exceptionnel. Avec ce qui s'est passé, avec l'accident de Leclerc et l'abandon de frein de Vettel, j'ai décidé de leur donner un peu de. Une fin de semaine de repos. Mais. Faites attention Ferrari parce que c'est votre millième course. C'est votre millième course. Donc vous êtes mieux de bien faire parce que sinon, Abdou s'en vient.
Oui, Abdou, une dernière chose, c'est qu'il va voir un rouge là-bas.
Oui.
Une Mercedes. C'est pas une Ferrari.
C'est une Mercedes. On vous mettra la photo sur le lien du podcast du bulletin F1 de cet épisode. Parce que oui, en fin de semaine, c'est le Grand Prix de Toscane à Mugello. Donc, et on va avoir une Mercedes rouge, la voiture de sécurité, naturellement. Alors, je m'appelle Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. On se retrouve la semaine prochaine pour le retour sur le Grand Prix de Mugello. Et je vais vous laisser avec les commentaires désormais mythiques de Julien Febro commentant la victoire historique de Pierre Gasly. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, peu importe où vous êtes. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. À la prochaine!
Elle est presque là, cette victoire! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gasly! Il l'a fait! Victoire de Pierre Gasly! Victoire d'AlphaTauri! La victoire française! 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis!